8h47 sur France Culture, l'heure de la transition d'Hervé Gardette. Bonjour Hervé.
Bonjour Guillaume.
Vous nous parlez biodiversité et droits de l'homme aujourd'hui.
Oui, j'ai le privilège de faire partie depuis quelques semaines de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Avant-hier, nous nous réunissions, comme chaque mois, en assemblée plénière. Il s'agissait notamment de décider des thèmes du prix des droits de l'homme de la République française, qui sera remis en fin d'année. À l'issue des discussions, nous avons notamment retenu celui de la défense de la biodiversité. Alors, à première vue, on peut s'étonner de voir cette thématique associée à celle des droits humains. Par définition, ces derniers sont anthropocentrés. Ils visent à défendre les droits des individus de notre espèce, mais pas ceux des plantes ni des animaux. Ainsi, la seule limite envisagée à leur exercice ne concerne que l'atteinte aux droits de nos semblables. C'est ce qu'on comprend bien à la lecture de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Alors ça ne veut pas dire que les droits de l'homme autorisent les atteintes à la biodiversité, mais du moins ils ne les interdisent pas formellement. Les animaux ne sont donc pas considérés comme des sujets dont les besoins éthologiques et la subjectivité pourraient limiter notre droit. C'est le constat que fait la philosophe Corinne Pelluchon dans un des textes de son dernier ouvrage « Réparons le monde » aux éditions Payot et Rivage. Pour cette spécialiste de Lévinas, engagée dans la défense de la cause animale, il serait pourtant nécessaire et logique de prolonger la dynamique universaliste des Lumières en direction de l'ensemble du monde vivant, à commencer par les animaux. Il faut admettre, écrit-elle, qu'ils forment avec nous une communauté mixte de fait, que notre habitation de la Terre est toujours une cohabitation et que la justice implique que les règles de cette coexistence entre humains et non-humains soient équitables. Cela signifie que notre liberté n'est pas limitée exclusivement par les autres êtres humains, mais aussi par les animaux. Alors évidemment, il n'est pas question d'attribuer les mêmes droits à un être humain qu'à un chien ou à un arbre, ce serait absurde. Pas question non plus de nier l'avancée qui a consisté à forger le concept d'individu, une fiction théorique certes, mais sans laquelle l'état de droit n'aurait pas été possible. Mais ce qu'explique Corinne Pelluchon, c'est que cette approche a fini par nous éloigner du reste du vivant, à représenter l'humain comme un empire dans un empire et la nature comme un simple fondement. Or, les connaissances scientifiques qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment sur les questions de sensibilité, sont difficilement compatibles avec des droits qui nous tiennent à l'écart des autres êtres vivants. Il y va de notre responsabilité, mais aussi tout simplement de notre intérêt. Les atteintes à la biodiversité ont des conséquences directes sur l'exercice de nos droits. Quand la première est attaquée, les seconds sont affaiblis. La crise du coronavirus en a fourni une parfaite illustration. Alors, accorder des droits aux animaux, à la nature, distincts des droits humains, mais dans le prolongement de ces derniers, n'a donc rien d'illogique. Un tel programme, conclut la philosophe, prolonge l'œuvre émancipatoire des Lumières et renoue pleinement avec leur idéal civilisationnel. La défense de la biodiversité est bien une condition de la réalisation des droits humains.
Merci beaucoup, Hervé Gardette.